Bonjour Monsieur Loger, vous êtes l'auteur de La Bataille, une bande dessinée sur la bataille d'Arras en 1917, publiée aux éditions De Georges à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc vous vivez à Lille, quel lien avez-vous avec la ville d'Arras? Pourquoi avoir décidé de raconter cette bataille plutôt qu'une autre?
La raison est en fin de compte profonde et liée à mon histoire, aussi à mon enfance. Je suis né dans le Pas-de-Calais, à Auchel, et mon grand-père, du côté paternel, était mineur de fonds. Et des deux côtés, paternel et maternel, alors il vivait à Nœux-les-Mines, donc au pied de la crête de Vimy. Et en fin de compte, souvent après le repas, on partait se promener sur la crête et donc sur ce petit lieu de reconstitution des tranchées canadiennes et allemandes. Voilà, je connais petit à petit, j'ai appris à connaître l'histoire de ces divisions canadiennes qui sont tombées sur les lignes allemandes en avril 17. Mais je ne connaissais pas dans le détail, je savais qu'il y avait bien eu cette offensive, mais je ne connaissais pas dans le détail l'histoire des tunneliers néo-zélandais et leur travail qu'ils ont donc effectué à partir des carrières sous la ville d'Arras. Et j'ai découvert cette histoire en décembre 2012 avec un ami qui m'a emmené aux carrières Wellington. Et en sortant, je me suis dit, mais c'est un récit magnifique qui est presque conçu pour la bande dessinée. Et la première chose tout de suite qui m'est venue à l'idée, c'est que de toute façon, s'il était possible de construire cet album, c'était aussi de le réaliser dans les deux langues pour faire un lien entre leur histoire et la nôtre, entre la région Nord-Pas-de-Calais et tous ces gars qui sont venus d'ailleurs, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada et de Grande-Bretagne, donc en fin de compte tout le Commonwealth. Donc en fin de compte, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi depuis bien longtemps, mais ça a été à un moment donné, l'occasion, quoi. Et en mars 2013, je décide de lancer mes recherches et puis en juin de provoquer des rencontres avec une dizaine de planches ancrées et une quinzaine crayonnées, et de proposer un projet, ce projet hein, d'album, à quatre éditeurs de la région. Et puis il y a très longtemps, en octobre 1978, donc je devais être je ne sais plus très bien, mais peut-être en quatrième, quelque chose comme ça, ou cinquième, quatrième. Et j'avais déjà réalisé quelques planches de bande dessinée sur cette histoire de tunnelier. Et je les ai retrouvés il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il y a un lien qui a été fait et qui est très fort, en fin de compte. Une histoire de gamin, de grands souvenirs, parce que de toute façon, 14-18, chez moi, je pense dans beaucoup, beaucoup de familles françaises, c'est une histoire très présente. Moi, du côté de mon grand-père paternel, mineur de fonds, donc il a perdu son père en 1915 à Verdun. L'autre côté maternel, ma grand-mère, elle était orpheline de guerre. Elle avait perdu son père aussi pendant la guerre. Et sa mère est décédée de chagrin juste après. Donc c'est toujours lié à des histoires quand même très dures, à des fissures ou des fractures psychiques. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on a négligé. Et en fin de compte, nous, la génération d'après-guerre, comme ça, des années 60, on a quand même rencontré, enfin mes grands-parents, moi, on va dire, ces fractures ont été victimes de cette guerre. Donc, elle a toujours été là, présente. Et je pense que, justement, commémorer, puisqu'on en est là aujourd'hui, ce centenaire qui vient de se poser, là, comme ça, pendant 4-5 ans, 2014, 1914, je pense que c'est là où il y a quelque chose d'important, peut-être encore à dire et à réfléchir, parce qu'on est encore très touché par cette histoire, c'est évident. Donc c'est un lien, quoi. Un lien entre hier et aujourd'hui, entre l'histoire de mes grands-parents et moi, voilà, c'est un lien multiple, enfin, aussi.
Donc justement, vous évoquiez là vos recherches. Dans votre BD, en fait, il y a vraiment une précision historique assez pointue. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce travail de recherche qui a dû être assez conséquent en amont?
Oui, c'est vrai, très conséquent. D'abord, j'ai démarré par des choses simples, c'est-à-dire que la bataille d'Arras, moi, en fin de compte, je ne la connaissais absolument pas dans le détail. Et j'ai découvert d'ailleurs qu'une bataille, ce qu'on appelle une bataille, n'est pas en fait un seul et même fait d'armes. C'est une multiplication de batailles dans une offensive plus globale, qu'on appelle la bataille d'Arras. D'abord, j'ai découvert aussi des choses très simples, parce que j'y connaissais rien dans on va dire, la structure hiérarchique militaire, et puis aussi sur les formations. Donc entre la différence entre un peloton, un nombre d'hommes en plus, en Grande-Bretagne à cette époque c'était aussi différent que dans des régiments français, etc. La compagnie, voilà, les divisions, etc., etc. Les stratégies aussi, très important, qui avaient évolué entre 1914 et 1917. Bon, enfin tout ça, grosso modo, il a fallu balayer large et puis retrouver aussi beaucoup de documents d'époque, en sachant qu'en général les documents souvent pouvaient être des documents de propagande, ou alors là pour le coup en 1917 il y a quelquefois on est très très près du front et on a des photos, on peut disposer de photos où là on est presque au moment ou juste après la bataille, donc ça permet de pouvoir traiter un petit peu mieux l'image, de mieux comprendre surtout ce qui s'est passé. Donc j'ai éclusé les bibliothèques, parce que la première chose à faire c'est ça, et je suis tombé donc sur, parce que la première référence c'était ça, sur les livres d'Alain Jacques, et dont un livre des années 90, parce que c'était déjà un vieux livre qui avait été référencé à la bibliothèque Lévy de Lille. Et puis j'ai découvert qu'en fin de compte, il était historien et archéologue, et puis directeur du service archéologique de l'île d'Arras. Et quand j'ai pris contact à un éditeur, dans le même temps, déjà j'avais beaucoup, énormément de documents, j'ai pris aussi contact bien évidemment avec lui. Et là, il a pu effectivement me donner des documents que de toute façon moi je n'aurais jamais pu trouver, ça c'est évident. Déjà des photos des carrières Wellington et où des endroits où qui de toute façon ne sont pas accessibles au public. Donc par exemple des graffitis qu'on ne peut pas voir ou des choses comme ça, qui ont été donc des graffitis qui ont été tracés par des soldats ou des tunneliers. Je lui ai envoyé en novembre tous mes crayonnés, il les a corrigés case à case, page par page, et on a fait des échanges, voilà, d'informations, de docs. Ça m'a permis d'avancer de façon plus sûre. Et sinon, dans mon atelier, c'était un immense foutoir. J'avais des documents jusqu'au plafond, plus de 1000 docs. Et quelquefois, sur une case, on peut retrouver sur une case dessinée, en fin de compte, 5 documents, 5 archives photographiques. C'était un peu la règle, quoi. Parce que de toute façon, il fallait aussi entrecouper, vérifier l'information. Et puis, quand bien même, de toute façon, je ne pouvais pas dessiner, parce que la chose ou l'information, parce que de toute façon, je ne disposais pas de documents, le dessin a au moins cet avantage, c'est de pouvoir créer une absence sans que ça pose de problème à la narration. On peut soustraire, on va dire, une information ou un document, voilà, sans que ça gêne en rien. Voilà. S'il manquait à un endroit, un détail, c'était pas bien grave, puisque grosso modo, si l'essentiel est à peu près posé, ça va. Donc voilà. C'était effectivement un gros travail qui était aussi important que le découpage, que le scénario et que donc après voilà le crayonné et l'ancrage, donc toutes les phases inhérentes à l'élaboration d'une bande dessinée.
Vous êtes bien sur PFM 99.9 et nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Loger, auteur de la bande dessinée La Bataille. Interview réalisée mardi dernier. Donc finalement, avec ce travail de recherche, on arrive à une BD qui est vraiment abondante en informations et en précisions historiques. Et alors du coup, je me suis posé une question, est-ce que quand vous l'avez faite, cette BD, vous l'avez plutôt pensée comme un documentaire imagé et scénarisé, ou comme une BD entre guillemets classique qui aurait un but avant tout divertissant?
C'est la difficulté et c'est le côté étonnant de ce genre de bande dessinée. C'est que si l'on est, par exemple, trop historique, on va vers une bande dessinée à la lecture qui est un peu mortelle. C'est-à-dire on a du texte en récitatif et puis qui va juste nous renvoyer sur la bataille dans toutes les séquences de la bataille. Ce qui s'est passé pendant un mois et demi, deux mois, presque semaine après semaine ou jour après jour, et en ne parlant que de stratégie. Et c'est quand même assez peu intéressant. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est justement la scénariser et remettre en avant, en fin de compte, les soldats, les tunneliers, ces gars qui ont participé à cette bataille, et de créer donc des personnages de papier. Et ces quatre personnages, un tunnelier néo-zélandais, un soldat britannique du Warfshire, de l'infanterie légère, un amérindien, tireur d'élite de la division canadienne, et un ambulancier australien, ces quatre personnages, en fin de compte, sont le condensé de toute une série d'autres non plus de personnages, mais de soldats ou de tunneliers, et qui, là, ces quatre personnages rassemblent en fin de compte l'histoire, les témoignages, les anecdotes de vie dans les tranchées, ou dans ces moments de guerre, ou de préparation militaire, ou de voyage, de là d'où ils venaient, etc. Leur histoire aussi, c'est-à-dire de là d'où ils venaient, ce qu'ils avaient fait avant de partir, ce qu'ils étaient avant de partir à cette guerre, et voire même quelquefois pour certains ce qu'ils sont devenus. Donc c'est ça qui était tout aussi important que les séquences clés de cette bataille. Donc là oui, il y a bien un travail d'auteur. Par contre, d'une certaine façon, concernant le scénario, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est bien les stratèges et les soldats et le moment et l'époque qui l'a dessiné et écrit, très clairement. C'est pour ça qu'en page de garde, je n'ai pas écrit scénario de Frédéric Loger, juste texte et dessin, voilà. Et donc, effectivement, il y a là une sorte d'espace qui est très intéressant à travailler. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas historien, ça c'est clair. Je reste un auteur et il faut savoir rester là où on doit être. Et puis, en même temps, j'ai bien essayé de traiter et de ce fait d'histoire. Et donc, de traiter le plus précisément possible. Voilà. Et donc, on est entre deux frontières, comme vous dites, entre le document et aussi la fiction. Oui, c'est vrai. C'est le parti pris de cette bande. Et c'est vrai qu'elle est, de fait, un petit peu moins classique, parce qu'on ne s'attache pas forcément à... On n'est pas dans la péripétie, on n'est pas... on n'est pas là-dedans. On est dans le récit de... On essaye d'accompagner, pendant 65 pages, de bande dessinée, ces quatre personnages de papier, mais qui reposent sur un socle de réalité, bien évidemment.
Concernant le dessin, vous avez choisi donc déjà en noir et blanc uniquement, enfin en noir et blanc avec des nuances de gris, oui. Avec un trait simple, épuré, mais très précis. Alors pourquoi ce choix esthétique ?
Ce choix graphique, moi j'ai une façon assez différente de dessiner. Là, j'aime bien les traits un peu gras, à la Tardi d'ailleurs, un peu charbonneux, comme j'aime des graphismes un peu plus épurés, etc. Bah là, c'était aussi un moyen de se positionner. Dans le récit genre 14-18, il fallait que je trouve une solution. Et donc, pour des scènes quelquefois de guerre, je me suis appuyé d'ailleurs sur la bande dessinée anglaise, un peu cet esprit-là, avec quelques scènes comme ça. Sinon, pour le reste, effectivement, c'est un dessin qui reste assez, effectivement, avec des grands aplats noir et un trait assez simple. Je voulais que le blanc circule, que le blanc de la page circule. Je voulais pas, d'ailleurs j'ai utilisé un noir plus un gris, et ce gris est coloré, il est un peu mordoré, il est gris beige, un peu comme d'ailleurs de la même teinte que l'uniforme britannique, c'était un peu le but, et il vient aussi d'une façon très fragmentée, il vient pas plomber forcément les cases, il vient se poser par endroits comme ça. Bon, ce sont des choix graphiques. Parfois je dessine d'une façon beaucoup plus sombre et plus noire, et là je pensais pas que c'était nécessaire d'en rajouter, puisque le texte dit déjà suffisamment beaucoup de choses sur la dureté de ce qui se passait. Les images quelquefois sont, je pense, quelquefois sont un peu rudes, mais avec un dessin très très, effectivement, très simple. Simple, tout est relatif, ça reste très dessiné, mais on va dire, en fin de compte, proche quelquefois du document aussi, des choses comme ça. Bon, c'était pour ça que j'ai adopté cette ligne graphique, quoi.
Pour rester dans le dessin, il y a plusieurs cases où vous faites des références à des artistes qui ont aussi traité de la Grande Guerre, que ce soit des peintres ou des sculpteurs, ou que ce soit même des gravures. Vous pouvez nous en parler aussi un peu ?
Oui, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que la guerre ne se résume pas justement ça, à des faits d'armes, et qu'elle a, sur nos territoires et dans notre histoire culturelle et dans nos psychismes, elle a laissé plus que des traces, elle a laissé plus que des traces, des blessures, mais elle a aussi laissé des traces culturelles ou artistiques, ou des choix qui ont été effectués plus tard, ou même des blessures qui ont trouvé leur interprétation dans le monde plastique, parce qu'il y a ça aussi. Donc je en arrière-plan, c'est ça qui est intéressant avec le langage de la bande dessinée, c'est qu'on peut créer plusieurs plans. Il y a une première lecture, on va s'en tenir à ce récit de la bataille et de ces hommes. Et en arrière-plan, ce qui me semble très intéressant, c'est de pouvoir montrer ou développer ces petites choses qui sont pourtant présentes dans nos univers, l'univers des arts graphiques ou de tout ce qui est art visuel ou littéraire. Ça m'intéresse. Donc c'est pour ça qu'on trouve, par exemple, à un moment donné, Augustin Lesage. Parce que suite à une exposition au Musée d'art moderne de l'Alsace, au LAM, me balader sur une exposition où il y avait un rapprochement qui avait été fait entre des œuvres brutes et Les mandalas indiens. Et donc, il y avait un lien là, un endroit qui a été fait sur l'occupation entre 14 et 17, 18, des Indiens, la présence des Indiens entre Saint-Venant, les Flandres, et puis même quand ils passaient à Arras. Et les peintres médiumnistes spirites d'après-guerre, en fin de compte, ont certainement été influencés. Maintenant, on pense qu'il y a là un endroit, quelque chose comme ça. Dans leur production picturale, il y a eu cette influence. Ouais, à un moment donné, je fais aussi référence, dans une des dernières cases, à Kollun, qui est un dessinateur magnifique, qui a fait beaucoup d'albums sur 14-18, et qui raconte l'histoire de Charlie Bourne. Bon, c'était simplement un hommage, un clin d'œil. Et puis, j'étais très content, parce que lors d'une visite à Péronne, je suis tombé sur une petite exposition provisoire, et c'était sur tous ces soldats australiens et d'autres, hein, qui étaient venus, d'ailleurs, là, entre la Somme, la Picardie et puis le Nord-Pas-de-Calais. Et j'ai découvert l'histoire d'un aborigène. Et ça, j'ai pas pu m'en empêcher d'y glisser deux planches dans la bande dessinée, parce qu'il était d'abord à Bullecourt, donc c'était tout à fait légitime, puisque c'était l'offensive de l'Anzac le 10 avril, au sud d'Arras, qui d'ailleurs faisait partie de la grande offensive, hein, de la bataille d'Arras. Et cette histoire-là, elle est incroyable. C'est un aborigène, il y en a eu 400 qui se sont engagés en 14-18, et il s'appelait Douglas Grant, et c'est un gars qui a produit des pages de bande dessinée. Donc c'est, en général, on retrouve et on a déjà, on va dire, soit découvert, soit lu, relu, ou en tout cas c'est archivé et publié, des journaux de guerre, écrits ou dessinés, de poilus ou de soldats, comme il existe d'ailleurs aussi des poètes soldats. Mais là, c'est quand même la première fois que je voyais qu'il y avait un récit qui se construisait comme une bande dessinée. Bon, je pouvais en faire qu'une référence, c'était inévitable. Et puis Wilfred Owen, qui était ce poète anglais, je ne connaissais pas du tout, qui est mort à Horse, près du Cateau Cambrésis, mais où son maître, on va dire, son alter ego, son frère d'armes aussi, qui était Sassoon, et qui, lui, a vécu l'offensive d'Arras. Et j'ai découvert leur poésie à tous les deux. Je ne la connaissais pas du tout. La poésie de guerre, quelque chose de très étonnant. Et celle d'Owen m'avait particulièrement touché. Donc, à un moment donné, dans une case, voilà, en arrière-plan, ou même de façon assez évidente, j'en fais une référence, parce que c'est tout à fait légitime. Et puis, comme de toute façon, là, on est dans un monde des arts visuels et du dessin, bah, ça me semblait intéressant d'y glisser aussi tous ces arrière-plans de gars qui ont fait la guerre et qui à la fois ont écrit et aussi dessiné. Et où aussi, à un moment donné, la présence britannique a donc marqué le paysage pictural des arts à un endroit marqué, les peintres médiumnistes, spirites, justement, qui avaient créé un cercle d'études psychiques à Arras. Et 3-4 personnages ont visiblement été très influencés par les mandalas qui ont circulé sur le front, ou des petites images comme ça, voilà. Et ça, je trouve que c'est tout aussi beau et tout aussi important dans un monde de boucherie et de désastre d'en parler, d'en tirer une petite case, de montrer ça. Ça, je trouve ça intéressant.
Chacun maintenant cherche des souvenirs de la guerre, sans parler de ceux qui peuvent en garder les poilus. Car tout le monde sait que cette fois c'est bien la dernière, ni fini, on ne se battra jamais plus.
Dans quelques instants, suite et fin de l'interview de Frédéric Loger, auteur de la bande dessinée La Bataille, publiée aux éditions Arageoises de Georges.
Mais ce qui survivra le plus, comme souvenir précis de ces jours triomphants, c'est le chant populaire à l'art des bons enfants. Quand Madelon vient nous servir à boire, l'a-t-on assez chanté sur tous les sons? Et plus tard, il sera dans l'histoire, histoire un peu sans façon. Si bien des choses nous paraissent sévères, pourvu qu'on pince des tailles et des mensonges, on en rit, plus la peine de s'en faire. Ah, 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 ah.
L'histoire, est-ce un thème de prédilection pour vous? Est-ce le désir de transmettre quelque chose ou la simple curiosité intellectuelle?
Je ne suis pas enseignant, donc je n'ai pas je ne suis pas forcément dans un rapport de transmission, etc., même si c'est des choses qui m'intéressent, hein, évidemment. Je pense que c'est lié à aussi, encore une fois, à un rapport qui était celui de un rapport à l'enfance, et où de toute façon, je pense que notre territoire, la région de Pas-de-Calais, est particulièrement marquée par l'histoire, et en particulier l'histoire moderne, bien évidemment, d'une façon très très forte, par toutes les occupations, voilà. Je pense que c'est ça. Je crois que là, il y a vraiment le nœud, il est là, très clairement. Et de toute façon, gamin, j'étais déjà toujours plus intéressé par les cours d'histoire que par les cours de mathématiques. Donc ça aussi, ça fait partie de sa structure, certainement des visions du monde, ou voilà, après des façons de faire. Donc comme petit à petit je me suis tourné vers le récit illustré ou le livre d'illustration et la bande dessinée, quelque chose qui a toujours été ma passion, comme c'est l'art de la séquence et surtout du récit, donc c'est un art narratif, bah forcément l'histoire est là pour le coup, on voit bien dans l'édition de bande dessinée, l'histoire est avec un grand H et omniprésente, elle fabrique la presque totalité des récits, même dans l'anticipation, hein, où voilà, il n'y a pas que l'histoire d'hier, ça peut être aussi un travail sur de l'hypothèse ou sur de l'astrophysique, et ça donne les meilleurs récits d'anticipation, mais qui ont bien un lien avec notre histoire humaine. Donc tout ça m'a toujours fortement intéressé, mais ce qui m'intéresse dans l'histoire, plus particulièrement, c'est l'aller-retour au présent. Ça, c'est quelque chose qui est très, très présent dans ma production. En 2001, j'avais sorti un album qui s'appelait « Le roi noir n'est pas noir » et qui était une histoire de la colonne Voulet-Chanoine qui, en 1898, fait c'est l'histoire de deux capitaines qui délirent sévère, de l'armée française, et qui, à un moment donné, sont lâchés sur la côte africaine, l'Est colonie, les ex-colonies de l'Afrique occidentale française, et qui vont se retrouver presque au bord du lac Tchad, mais en opérant des pillages, viols, etc. Enfin, c'est une histoire qui est très peu connue, dont l'armée française n'est pas très très fière, parce que c'est pas terrible. Et donc on avait raconté avec Pierre Levent de la Noix cette histoire-là. Donc voilà, c'était le grand projet de décolonisation des esprits. Mais en dehors de ça, là dernièrement, en octobre 2013, aux éditions Lumière de Lille, j'ai sorti un roman historique qui utilise un peu la forme polar, qui s'appelle « On ne pactise pas avec le mal » et qui est... le récit, illustré d'ailleurs, mais un récit qui est à la fois biographique, puisque ça parle de ma famille, où ils ont été résistants, du côté maternel, et du côté paternel aussi, et de l'évacuation des pilotes alliés, et des histoires de faux papiers, etc. etc. Et donc ça raconte l'occupation entre 40 et 44, 45, dans la région d'un Pas-de-Calais. Donc vous voyez que c'est omniprésent, c'est quelque chose qui est là dans ma production depuis très souvent et depuis toujours en fin de compte. Après, est-ce que ça change ? Je ne pense pas que ça ne change grand-chose, puisqu'on le voit bien avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Toutes ces productions-là, de toute façon, ne vont pas changer des visions du monde. Hein. Voilà, à un endroit... on n'est pas d'une grande utilité. La seule chose, c'est que ça permet peut-être de poser des récits avec des façons de regarder les choses, sans forcément penser ou croire que ça va bousculer le genre ou le lecteur, évidemment.
Pour finir, Monsieur Loger, peut-être pourriez-vous nous parler de vos projets futurs, si vous en avez ?
Eh bien, j'en ai quelques-uns. Et donc après, il va falloir que je fasse le tri, parce que de toute façon, je ne pourrais pas tout faire. Donc oui, j'ai un projet de bande dessinée, enfin deux projets, mais un qui peut se formaliser, je pense, plus rapidement. Et puis un autre qui est déjà un projet d'exposition que j'ai en tête depuis longtemps, autour d'ailleurs des peintres médiumnistes et spirites, parce que ça m'intéresse, l'histoire d'Augustin Lesage, mineur de fond, et qui entend des voix, et qui après, une production insensée et incroyable, picturale, qui est magnifique. Donc voilà, des choses comme ça. Et puis... là, j'ai sous le feu, j'ai déjà rédigé, on va dire, écrit la presque totalité, les deux tiers, d'un polar, mais vraiment polar, genre noir, voilà. Donc l'aspect historique, là, n'existe plus. On est plutôt dans le thriller. Donc je vais tester une autre forme de structure narrative, parce que ça m'intéresse de l'expérimenter.
qu'on emploiera dans n'importe quel domaine. Voici sûrement ce qu'à l'opéra comique nous ouïrons pour la millième de Carmen. L'amour est enfant de bonheur.
Nous venons d'entendre Frédéric Loger, auteur de la bande dessinée La Bataille, parue aux éditions de Georges en avril, en vente pour 24€. Cette BD commémorative, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous dépeint la bataille d'Arras en 1917 via quatre personnages aussi différents que symboliques. Une œuvre intéressante qui nous raconte notre histoire sous un angle original et étranger, celui des soldats de l'Empire britannique. Retrouvez toutes les informations quant à Frédéric Loger, ses œuvres et ses projets sur www.frédéricloger.tumblr.com. Et retrouvez bien évidemment l'interview sur le site de la radio www.radiopfm.com.
Pour illustrer son nom, désormais le boulevard de la Madeleine s'appellera le boulevard de la Madeleine. La Madeleine, comme on dit, n'est pas sévère.